Joseph Fouché est célèbre pour avoir été le puissant ministre de la police de Napoléon. Sa renommée, il la doit aussi à son action plus que vigoureuse durant la Révolution pour réprimer les insurgés lyonnais et brimer les prêtres de la Nièvre. Ce que l'on sait moins, c'est que Fouché, contraint à l'exil après le retour des Bourbons au pouvoir, a passé deux des dernières années de sa vie à Prague. Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire.
Ces longs mois entre l'été 1816 et l'été 1818 ne sont certainement pas les plus heureux de sa vie. Fouché n'en dit pas un mot dans ses mémoires. Une partie de son temps passé à Prague, l'ancienne capitale du royaume de Bohême, il l'aurait d'ailleurs consacré à l'écriture de ce texte autobiographique. C'est ce que raconte l'historien Antoine de Varesquiel, son récent biographe, un extrait.
Il parle sans cesse de ses mémoires. Il y travaille, il les achèvera. Ses mémoires sont le serpent de mer de son exil. À Prague, le gouverneur Kolovrat est suffisamment inquiet pour en avertir le directeur de la police de Vienne. L'exilé s'y consacre, précise-t-il dans un rapport, de 6h du matin à 10h du soir.
Le texte ne paraîtra pourtant qu'en 1824, soit après la mort de Fouché, dans une version dont l'authenticité est d'ailleurs discutée. Comment l'expliquer ? Peut-être parce qu'à Prague, l'invité prisonnier de Metternich, l'ancien révolutionnaire devenu l'emblématique ministre de la police de Napoléon, alors âgé de près de 60 ans, pense encore qu'il pourra revenir aux affaires, que son histoire n'est pas terminée. Il se trompe, c'est son quatrième exil, le dernier et le plus cruel, ainsi que le note Stefan Zweig, qui lui a consacré en 1929 l'une de ses célèbres biographies romancées. Fouché, qui semblait être parvenu à retourner habilement sa veste en se mettant au service de Louis XVIII, dont il est deux mois le ministre de la police en 1815, après la chute de Napoléon et le retour de la monarchie, paie pour une décision prise lors de l'une de ses vies antérieures. Au mois de janvier 1793, il a voté la mort du roi Louis XVI, qui n'est autre que le frère de Louis XVIII. Aussi, le duc d'Otrante, c'est le titre désormais de Fouché, est l'une des victimes de la loi du 16 janvier 1816 qui condamne à l'exil éternel les anciens conventionnels régicides. Le coup est rude. Lors du vote de ce texte, notre homme se trouve à Dresde, où il vient d'être relevé de ses fonctions d'ambassadeur qu'il occupait depuis son renvoi du ministère de la police. Fouché ne compte cependant pas rester longtemps en Saxe, et bien qu'il proclame à qui veut l'entendre qu'on est prêt partout à l'accueillir, c'est vers l'Autriche qu'il se tourne. En 1934, dans la revue française de Prague, l'historien tchèque Novotny développe.
Fouché, en vieux renard qu'il était, avait, dès la fin du mois de février, prié l'Autriche de lui accorder un asile. Il ne reçut de réponse qu'en avril. Metternich lui écrit de Vérone que l'empereur François avait consenti à lui permettre de s'installer dans un des chefs-lieux des provinces de l'Empire. Le chancelier pensait que c'était à Prague que l'exilé pouvait se sentir le plus à son aise. Le conseil de Metternich était plutôt un ordre, rédigé sous une forme très polie.
Fouché et sa famille obéissent donc à cet ordre et s'installent à Prague en juillet 1816. Cela serait beaucoup dire que le duc connaît la ville, mais il y avait déjà passé quelques jours en juillet 1813. Missionné par Napoléon malgré la disgrâce dont il faisait alors l'objet, il avait à l'époque rencontré Metternich. Fouché retrouve à Prague certains compatriotes de sa connaissance, tels que le député régicide Antoine Claire Thibaudeau ou François Durbach. Ironie du sort, les deux hommes doivent leur exil à l'ordonnance du 24 juillet 1815, élaborée par ses propres soins quand il était encore ministre de la police. Voilà qui explique en partie pourquoi Thibaudeau n'est pas tendre dans ses lettres et ses mémoires avec son ancien ami. Antoine de Varesquiel rapporte certains de ses écrits.
À Prague, on n'est pas très enchanté de la présence de cette hôte de qualité qui, du sommet de la puissance, a été précipitée à terre. L'aristocratie particulièrement est pleine de froideur avec cet intrus arrivé d'une manière aussi soudaine. Car les nobles de Bohême lisent toujours les journaux français qui, à cette époque précisément, sont pleins des attaques les plus vindicatives et les plus enragées contre ce monsieur Fouché.
Après avoir occupé un logement du côté de la vieille ville, Fouché emménage dans l'une des luxueuses résidences du quartier de Malastrana. Il va à l'opéra, entretient une correspondance nourrie dans toute l'Europe et tente de se faire une place dans la haute société pragoise, mais sans beaucoup de succès d'après Thibaudot.
Mon voisin est un objet d'épouvante, on le regarde comme un colosse. C'était lui qui dirigeait toute la France, le peuple, l'armée, l'empereur. Jugez combien il est flatté de cette haute opinion.
Thibaudot s'amuse de la prétention de Fouché, professeur à l'oratoire dans les années 1780, militant jacobin convaincu au début de la Révolution, à faire valoir ses nouveaux titres de noblesse. Il est arrivé à Prague en sans-culottes et il part en prince, note-t-il. Fouché, qui se plaint de mal maîtriser l'allemand, s'entretient notamment régulièrement avec František Antonín Kolovrat, le comte de Kolovrat, le burgrave suprême de Prague durant la période. En réalité, le gouverneur pragois organise activement la surveillance de l'encombrant Fouché. Des mouches sont recrutées dans son personnel et sa correspondance est ouverte, décryptée et lue. Régulièrement, Kolovrat adresse un rapport à propos des faits et gestes du français au président de la police viennoise, Josef von Sedelnitsky. Pour ne rien arranger, une sale rumeur vient pourrir un peu plus le séjour pragois de Fouché et elle concerne sa seconde épouse, Ernestine de Castellane, la fille d'une illustre famille aristocratique de près de 30 ans sa cadette. Il se dit en effet que le propre fils de Thibaudot, Adolphe, entretiendrait un commerce licencieux avec elle. Emmanuel de Varesquiel raconte le triste épisode.
À 22 ans, Adolphe Thibaudot passe pour un très bel homme. Ses visites à Madame Fouché se multiplient et se prolongent un peu plus que le voudraient les usages. À l'évidence, Ernestine aime sa compagnie. A-t-on été plus loin ? De bonnes âmes le feront croire. Tout cela, en tout cas, n'est pas du goût du mari. On le fait savoir à Paris. L'affaire est du genre à réjouir le faubourg Saint-Germain. On sait très bien là-bas que le ridicule peut tuer. On injuriait Fouché, on va le calomnier maintenant. Le régicide devient cocu, et certainement pas un cocu magnifique, un vieux cocu amer et décati.
Autrement dit, Fouché boit le calice jusqu'à la lie. Stéphane Zweig décrit cette déchéance dans un chapitre au titre éloquent « Chute et fin ».
Celui qui n'était en faveur auprès de tous que parce qu'on le craignait est méprisé de tous depuis qu'on ne le craint plus. Le plus grand des joueurs politiques a perdu la partie. Pendant 25 ans, cet homme souple et insaisissable a toujours échappé au destin qui si souvent le menaça. Maintenant qu'il est définitivement par terre, les coups pleuvent impitoyablement sur lui. À Prague, non seulement l'homme politique, mais encore le particulier qu'il y a en Joseph Fouché subit le plus douloureux des canossas.
Il n'y a plus qu'une solution pour Joseph Fouché, la retraite. Stéphane Zweig poursuit.
Ce n'est que maintenant, dans le malheur, qu'il reconnaît toute la profondeur de sa chute. Et son exil à Prague devient pour lui un enfer. Il sollicite du prince de Metternich l'autorisation de quitter cette ville insupportable et d'en choisir une autre. On le fait attendre, mais enfin Metternich daigne lui permettre de se rendre à Linz. C'est là que se réfugie cet homme déçu, fatigué et humilié devant la haine et les railleries d'un monde qui, autrefois, lui fut soumis.
À Linz, Fouché s'ennuie à mourir et tombe encore davantage dans l'oubli. En 1819, Metternich l'autorise à aller s'installer au bord de l'Adriatique, à Trieste. C'est là que celui qui fut le mitrailleur de Lyon, l'un des tombeurs de Robespierre, l'intrigant du directoire, le modernisateur et l'organisateur de la police de Napoléon, et donc également le malheureux de Prague, s'éteint à la fin de l'année 1820.